Aujourd'hui, nous accueillons pour la première fois, et avec quel succès, Jean-Jacques Jarige. Vous êtes docteur en géologie, on doit vous connaître, vous êtes de Daglan en fait. Hein, et vous continuez à être fidèle à votre pays,
oui.
Vous venez toujours à Daglan.
Oui, oui,
bon,
bien sûr.
Voilà. Et vous allez nous traiter un sujet que vous connaissez tous, mais sans doute très mal, le Séoul, une rivière, un pays. Un sujet qui nous concerne directement, un paysage que nous voyons tous les jours, mais dont nous ne connaissons sûrement pas la très longue histoire géologique, climatique, agricole, humaine. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, très peu.
Non, c'est ça ?
Vous avez été à l'essentiel.
Bon, j'étais à l'essentiel. Eh bien, cette histoire, vous allez nous la raconter.
Merci, j'ai déjà un micro. Bon, ben merci. Donc, c'est à moi
de jouer,
oui. Donc, tout est parti, en fait, de ce livre que j'ai publié en 2017 qui traite donc de la vallée du Séoul côté périgourdin. Parce que quand j'ai vu la longueur, j'avais pas évalué au départ la longueur de cette grande rivière. Et quand je suis remonté jusqu'à sa source, je me suis dit, oulala, ça va être trop compliqué, on va s'arrêter à Pontcarral, ça suffira largement. Et donc, j'ai traité dans ce... Je suis géologue de formation et de métier, donc évidemment, le chausseur étant le plus mal chaussé, j'avais jamais regardé la géologie autour de chez moi. J'en avais largement assez ailleurs sur les autres continents. Et donc, à la retraite, j'ai quand même sorti la carte géologique du secteur. Je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses intéressantes.
Ah, alors, est-ce qu'on peut monter un petit peu le son ?
Oui. Voilà. Et donc, je me suis dit, je vais faire un petit fascicule sur la géologie du Séoul. J'ai regardé les paysages un peu mieux. Je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être expliquer les paysages. Après, je me suis dit, mais il y a des gens tout autour de moi, donc je me suis dit, tiens, peut-être je pourrais raconter l'histoire de cette population du Causse de Daglan. Et puis, je ne suis pas trop historien, en fait, donc je me suis contenté de raconter deux siècles, enfin d'essayer de raconter deux siècles, le 19e et le 20e, puisque pour le 21e, ce sera pour le deuxième tome. Et voilà, donc j'ai édité à compte d'auteur ce livre, avec maquetté et édité par mon ami José Santos Duzer, qui est dans le métier, qui m'a conseillé sur la maquette. Et donc ce bouquin, après j'ai commencé à faire quelques conférences, et j'avoue que d'une part... J'ai vendu tous les exemplaires, les 500 exemplaires que j'avais fait imprimer. Donc celui-là, c'est celui de ma belle-mère. J'avais pas fait attention, mais je me suis aperçu en arrivant ici. Pour pas qu'on lui pique, elle a mis l'étiquette avec son nom. Et deuxièmement, les petites conférences, le Covid, malheureusement, les a arrêtées. Donc je suis parti sur d'autres sujets. Et donc, je suis comme vous, je redécouvre mon Séoul aujourd'hui avec vous, parce que j'avais un peu laissé tomber. Donc, l'idée, ce que j'ai fait, ce que je faisais... Alors, je vais essayer de me trouver un endroit. Alors là, j'ai toujours des problèmes avec ces outils.
Faut l'allumer.
Ah, faut l'allumer, oui, c'est un peu comme tout. Voilà. Donc l'idée, je vais commencer par une présentation de la rivière et de ses caractéristiques. En deuxième partie, les paysages qui sont associés à la rivière et à son environnement. Et en troisième partie, on essaiera d'aborder un, voire deux, si on a le temps, aspects de la sociologie. On parlera des mutations 19e, 20e sur les transports, c'est-à-dire la sortie de l'autarcie de ce pays complètement fermé jusqu'au 19e siècle, et puis qui s'est ouvert vers l'extérieur avec l'amélioration des routes et puis la construction des ponts, qui l'a complètement désenclavé. Et puis s'il reste un peu de temps, j'ai prévu un quatrième paquet sur la vigne, le vignoble, puisque ça a été quand même une base de l'économie locale pendant très longtemps. Mais je ne suis pas sûr qu'on aura le temps. Donc aujourd'hui, depuis un an et demi, je suis conservateur, c'est un grand mot. J'essaye de monter une exposition sur le site de la maison de la pierre sèche et du Causse à Daglan. Et donc, toutes les présentations que je fais depuis 6 mois, 1 an, je les fais dans ce cadre. Et donc, j'ai confondu évidemment le pointeur. Il est où le... Ah ben je vais prendre le mien, ça sera plus simple. Voilà. Et donc je fais figurer ici les gens ou les entités qui nous parrainent dans notre programme Pierre Sèche et Causse de Daglan. Si vous voulez parrainer, n'hésitez pas. Vous aurez votre écusson ou votre nom dans le petit coin à droite avec les autres. Voilà, donc le CEU, je ne sais pas si vous connaissez déjà ce secteur du Périgord noir. Donc c'est d'abord une rivière. Ça, c'est une photo qui est prise. Alors je vérifie le temps parce que je peux quelquefois me laisser aller et dériver complètement par rapport au temps. Ça, c'est une photo qui est prise du château de Castelnau, presque dans l'axe de la vallée. Une vallée très encaissée dans le Causse. Le CEU a commencé à s'installer sur cette vallée à peu près il y a 20-25 millions d'années. Et il a commencé à creuser dans la série calcaire. À gauche... Ah, bah tiens, ça marche plus, bon, c'est pas grave. Donc je vais prendre le vôtre.
Le trait en haut, là. Le trait vertical.
Bon, vous allez me montrer. Ah, voilà. Donc ici, les falaises que vous connaissez bien sur les bords de la rivière Dordogne, dont on va reparler. Le versant complètement enrobé par les castines et couvert par les chênes pubescents. Et puis au fond, une vallée à fond plat qui pose pour un géologue toujours un problème de comment fait-on une vallée à fond plat pour une rivière aussi encaissée entre ces deux versants. Donc j'ai emprunté à l'époque un certain nombre de documents à Épidaure qui me les ont passés avec de manière très, très gentille. Voilà cette petite carte pour montrer la Dordogne que vous reconnaissez au nord, la rivière et le CEU qui est ici, qui prend sa source au nord de la Bastide, à peu près à 400 mètres sur le plateau du Quercy, et qui va traverser tout le plateau calcaire pour aller se jeter à Castelnau, à peu près à 60 mètres d'altitude, avec sur une longueur de à peu près 50 km. C'est quand même une rivière conséquente, surtout sur la rive gauche de la Dordogne, il n'y a pas beaucoup d'affluents de cette taille. Et ce qui est intéressant, c'est le trait rouge qui est ici. C'est la limite du bassin versant de la rivière, c'est-à-dire le bassin versant d'une rivière. C'est la zone dans laquelle toute goutte d'eau, qui tombe dans ce périmètre, a vocation à aller dans la rivière. Et on voit ici la limite entre le bassin du CEU et le bassin de la Tournefeuille et de la Germaine. Donc de ce côté, toutes les eaux descendent directement à la Dordogne par ces deux rivières. Le CEU, il a trois affluents principaux, le Bléou, l'Ourajou qui passe à Salviac et qui arrive à peu près à Pontcarral, et puis la Lousse, dont on reparlera, qui est très importante pour la tenue d'eau, du niveau d'eau du CEU en période sèche. Donc voilà, le CEU au printemps, là il est magnifique, Il y a de l'eau, les gourgues, les petites cascades, les cascadelles, et on a une rivière très belle. Malheureusement, tous les étés, quasiment, il peut arriver qu'il est très bas, voire très bas, et voire souvent à sec, complètement à sec, comme ici à Bouzic il y a quelque temps. Cet été, il n'a pas fini complètement à sec autour de Daglan, mais il n'était pas bien loin. Et là, on découvre tous les encroûtements de calcaire qui sont sur le fond de la rivière, et puis surtout ces encroûtements de travertin, de calcaire, en bordure des cascades, à l'endroit où l'eau chargée en carbonate est très oxygénée et où il y a précipitation de manière très favorable de séries calcaires. C'est pour ça que les cascades ont tendance à croître, enfin les bordures, les reliefs des cascades ont tendance à croître au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau. Alors les ASECs, alors nous avons de la chance, c'est que dans les années 90, pour faire un inventaire du potentiel en eau disponible dans le secteur, les autorités et Épidore ont fait faire une thèse par un hydrogéologue sur le bassin du Céou. Donc il a fait un certain nombre d'études hydrologiques et hydrogéologiques, dont cette carte qui est intéressante, qui montre pour l'été 98, à l'étiage, les zones où la rivière coulait, en bleu, enfin le Céou, et puis c'est les rivières qui sont plus au nord, là, vers Gros-le-Jacq, les zones en jaune, je crois que c'est la sec complet, oui. Et puis en vert, c'est les endroits où il reste quelques gourds pleins d'eau. Donc on voit que la partie amont, lotoise du Céou, est quasiment à sec. Cet été, c'est exactement pareil. Tous les étés, c'est à peu près la même chose. Et par contre, la rivière le Céou, généralement, est en eau à partir de la source de la résorchance de Bouzic. À partir de Bouzic, on commence à avoir l'eau qui s'écoule vers Castelnau. Et puis, on va en reparler, c'est une rivière qui coule sur du calcaire. Il y a constamment des pertes d'eau et des arrivées d'eau. Donc c'est un bilan, en fait, son débit, c'est un bilan entre les pertes et les arrivées. Et donc, à partir de Bouzic, les arrivées, les sources, les apports sont positifs par rapport aux pertes. Et la rivière, le débit devient de plus en plus important quand on se dirige vers Castelnau, parce qu'il gagne des sources comme celle de Daglan, celle de Saint-Cybranais, et d'autres tout au long du parcours. Et donc, il a généralement un débit beaucoup plus constant au fur et à mesure que l'on s'approche de Castelnau. Et puis, point majeur, c'est la Lousse, qui, elle, n'est jamais sèche. La Lousse coule tout le temps. On va voir pourquoi. Et donc, la Lousse qui passe à Saint-Pompon et qui vient se jeter dans le Céou juste avant le village de Daglan. Alors, l'explication de tout ça, c'est la géologie. Donc, vous retrouvez la même carte, ici, avec des couleurs, donc toujours la limite rouge, c'est le bassin versant. En bleu, ce sont les calcaires compacts du Jurassique qui forment le causse. Donc c'est une roche qui a poussé entre 120 et 150 millions d'années, très compacte. Et donc l'eau ne passe pas. Elle passe, par contre, elle est très cassante, donc l'eau passe, circule dans les fractures. Et elle est en opposition du point de vue comportement avec ce qui est en vert ici. Ce sont les calcaires, les grès, les calcaires gréseux et les argiles du Crétacé, c'est-à-dire des roches plus récentes qui sont à l'affleurement dans tout le Sarladais. Et là, du fait que l'on a d'abord des grès, donc des réservoirs, des roches poreuses dans lesquelles l'eau peut circuler, et des argiles qui peuvent arrêter l'eau quand elle s'infiltre, là, on a des paysages et des sols beaucoup plus humides. Et le Daglanais ne se trompe pas, s'il veut trouver du cep, c'est pas Daglan qui va le trouver. Il faut qu'il aille au moins sans pompon, passer cette faille, là, ce trait, et de l'autre côté, s'il y a des cèpes, il va les trouver à partir de là. Donc voilà l'explication de du comportement de la rivière et de son débit, de ses crues l'hiver, on va en reparler, et de ses assèques l'été. Alors, sur ce calcaire, alors là, je fais attention parce que je parle sous contrôle de mon collègue Jean-Paul Liégeois, donc il ne faut pas que je raconte de conneries. Donc voilà un bloc diagramme fait par un géologue Bakalovitz, spécialiste de karst, et qui a publié ce petit bloc diagramme il y a quelques années et qui résume assez bien toutes les morphologies typiques qu'on trouve sur un karst. C'est-à-dire un massif calcaire attaqué, érodé par l'eau, et l'eau chargée en CO2, en gaz carbonique, qu'elle récupère dans l'humus du sol, quand elle s'infiltre, elle dissout le carbonate. Donc, elle crée des trous. Voilà une roche qui est très attaquée déjà par le système d'altération et de dissolution de l'eau. Elle commence par créer des trous, puis après, elle profite des fractures pour créer des conduits dans lesquels elle circule. Et puis, la dissolution augmentant, il se crée des effondrements, des grottes, des gouffres. Tout ce système de fractures, de cavités est interconnecté. Et l'eau, en fait, circule dans ce réseau souterrain, beaucoup plus qu'elle ne circule en surface. C'est pour ça que le Causse, généralement, est sec. Alors, dessous, ça c'est une photo que m'a passée justement Jean-Paul, il y a tout un réseau. Alors, Francis Guichard reconnaît ses amours de jeunesse également. Voilà, et puis moi-même, gamin, j'y suis descendu avec des copains. À l'époque, c'était relativement libre. Je ne sais pas si c'était bien raisonnable d'ailleurs, mais bon. Voilà le trou du vent à côté de Bouzic, donc une connexion entre la surface et un réseau souterrain de plus de 10 km qui s'étend sous tout le plateau de Bouzic, Florimont, interconnecté avec des gouffres, des puits, un réseau souterrain dans lequel circule de l'eau. Ça, c'est une magnifique photo qui a été faite par Philippe Crochet, qui avait bien voulu m'en passer quelques-unes. Et toute cette eau donc circule sous le plateau. Et voilà des morphologies typiques. Une combe, c'est-à-dire que l'eau, là, est une vallée. Il n'y a pas d'eau. En période de sèche, il n'y a pas l'eau. Par contre, l'herbe est bien verte. L'eau, elle n'est pas loin. Les dessous, elle circule en subsurface, pas très loin de la surface. Et puis parfois, ça forme un écoulement de surface. Et toute cette eau qui circule en profondeur ressort par endroits au niveau des sources, et en particulier au niveau de la fontaine de Bouzic. Donc en fait, sur ce causse de Florimont-Bouzic-Campagnac, 50% de l'eau qui tombe sous forme de pluie s'infiltre. Et il y en a 30% qui est utilisée directement par le cycle d'évapotranspiration des plantes, et donc il n'y a que 20% de l'eau qui est restituée à la rivière. Donc c'est pour ça que notre pauvre Céou, lui, il récupère que 20% de l'eau, et quand il pleut pas, alors là, il est encore pire, et même quand il pleut, les trois quarts de l'eau ne vont pas dans le lit de la rivière, ils passent directement dessous. Et pour la plus... Alors, tout va bien si l'eau ressort un peu plus loin et le réalimente en aval, mais quelquefois, l'eau circule jusqu'à la Dordogne, en souterrain, jusqu'à Dôme, jusqu'à Castelnau. Et les colorations qui ont été faites tout au long des études ont montré que l'eau peut circuler très loin, être rentrée dans le sol au niveau de Bouzic, de Campagnac ou de Florimont, et ressortir à Caumont, à Castelnau, à Feyrac ou même plus loin. Donc toute l'eau circule en profondeur. Donc il y a de l'eau. C'est un pays sec, mais il y a de l'eau, mais elle est dessous. Alors justement, quand on a une problématique de ressources d'eau, on s'interroge évidemment, est-ce qu'on doit puiser dans la rivière ou est-ce qu'on doit aller chercher l'eau plus en profondeur? Donc ça représente la colonne de roche qui est sous nos pieds. Alors quand on est sur le Causse, on est ici. Toute cette série crétacée qui forme les falaises du Sarladais, de la Dordogne, elle a été complètement érodée. Elle a existé, elle s'est déposée, mais elle a été complètement érodée pendant l'ère tertiaire. Donc en fait, sur le Causse, on marche sur ces surfaces calcaires. Et l'eau qui s'infiltre, tant qu'on est dans du calcaire ou dans des grès au-dessus, elle descend dans le sol, elle ne va s'arrêter que quand elle va trouver une unité plus argileuse. À ce moment-là, il se forme un niveau aquifère, une nappe d'eau, qui va s'écouler en fonction des pentes. Donc dans le secteur, on est capable, les hydrologues définissent très bien, plusieurs niveaux aquifères séparés plus ou moins séparés les uns des autres. Et celui qui nous intéresse sur le Causse, c'est celui-ci, c'est l'aquifère du Jurassique supérieur, qui circule dans le calcaire jurassique supérieur et qui, par exemple, sort à Bouzic ou ressort à Saint-Cybranais au niveau de source. Mais par contre, dessous, il existe d'autres niveaux d'eau déconnectés des niveaux supérieurs qui circulent encore plus en profondeur et qui sont chargés plus loin, plus à l'est, dans la bordure du Massif central, où ces séries calcaires affleurent. Donc l'eau tombe sur le calcaire, sur la bordure du bassin aquitain, s'infiltre en profondeur, suit les pentes, et par exemple à Bouzic, ils ont un forage à côté du village, et ils ont été chercher cette eau-là qui est dans ce niveau aquifère un peu plus profond. Et puis ces niveaux aquifères un peu plus profonds, on les connaît aussi au niveau de ce qu'on appelle les bulides. Alors les bulides, ce sont ces sorties d'eau que l'on connaît par exemple à Saint-Cybranais, que l'on connaît à Vézac, où le village de Castelnau pompe son eau actuelle. On en connaît également dans la vallée de Castel, à côté de Saint-Cyprien. C'est de l'eau qui ressort à la faveur de fractures, de failles, qui ressort des aquifères plus profonds et qui monte le long de ces failles. Et en général, on les reconnaît parce que il y a... Alors, on ne voit pas très bien sur mes photos, je n'ai pas pu retrouver une photo correcte. Ça, c'est la bulide de Vézac. Je ne me souviens plus de la personne qui me l'a donnée. Même j'avais son nom, je suis incapable de vous dire qui c'est. Mais alors on voit des ronds. En fait, il faut y aller à la bulite de Vézac, c'est étonnant. Hein. C'est une grande mare de 10 mètres à peu près de diamètre. Et au fond, vous voyez le fond bouillonné, c'est un fond sableux qui bouillonne. Il y a constamment de l'eau qui sort. Et il y a du gaz qui remonte dans la mare d'eau. Et si vous lisez Fernand Valette, qui a écrit des bouquins sur sa jeunesse à La Roque, il décrit sa grande tante de mémoire, je me souviens, ou sa grand-mère, ou sa grande tante, qui allait avec ses copines faire les lessives l'hiver. Parce que là, comme l'eau vient de profond, et comme plus on va en profondeur, plus la température augmente, 2 à 3 degrés par 100 mètres, là on a de l'eau qui est beaucoup plus chaude que l'eau de surface. Donc l'hiver... Nos aïeules ne se trompaient pas. Elles savaient que là, l'eau était plus chaude, elles allaient faire leur lessive là. C'est très bien expliqué par Valette. Et Despont à Saint-Cybranais me disait que lui aussi, sa grand-mère, allait à la bulie de Saint-Cybranais. Alors l'agriculteur local a tout défoncé, on ne la voit plus, mais on retrouve les bulles dans le lit du Céou, derrière le camping, je ne me souviens plus comment il s'appelle, là, qui est à Saint-Cybranais. Et on voit les bulles d'air sortir du fond de la rivière en remontant dans l'eau, il remonte un peu de sable, et dans ces zones-là, le fond est toujours un peu sableux. Donc cette eau circule en profondeur et ressort à la faveur des reliefs, des zones plus basses, pour alimenter la rivière Le Séou. À ce moment-là, ce sont les eaux qui ont circulé dans cette masse calcaire, ou alors on voit de temps en temps de l'eau qui vient de plus profond. Alors, du fait justement que la rivière, du fait du tréfonds karstique, répond aux intempéries, soit de manière positive, soit de manière négative, quand il pleut beaucoup et que le réseau karstique souterrain, l'eau commence par remplir le réseau karstique, mais quand il est plein, quand il est saturé, eh ben l'eau ne rentre plus en profondeur et elle s'écoule en surface. Donc les crues, si déjà il a plu très longtemps et que le réseau est saturé, s'il y a une grosse pluie qui arrive, elle ne pénétrera pas, elle. Et donc, ça crée une crue importante sur la rivière Le Séou. Et elle est bien connue pour ses crues qui ont quelquefois été catastrophiques. Donc ça, c'est une photo que m'avait donnée Francis à l'époque, entre Bouzic et Daglan. Donc la rivière, elle est là, entre les deux rangées de peupliers, là. Donc vous voyez qu'elle remplit la plaine. J'ai une photo qu'avait publiée Sud-Ouest à une époque, la vallée de Castelnau, c'est un lac. Et ça va arriver très vite, et ça va mettre après plusieurs, comme les sols sont gorgés d'eau, ça va mettre plusieurs semaines pour disparaître. Alors il y a eu des faits mémorables. Le plus connu, c'est 60, la crue de 60. Alors là, il y a eu des pluies torrentielles sur Gourdon et sur toute la bordure ouest du Massif central. Et là, les rivières, la Vézère, la Corrèze, le Séou, se sont gonflées très rapidement. Et à Daglan, ils ont vu arriver un mur d'eau. Alors à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes qu'ils ont mis en place depuis. C'est-à-dire que l'amont prévient par téléphone que le mur d'eau arrive, donc il faut déjà se sortir et puis sauver ce qu'on peut encore sauver. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, 5 minutes avant, il y avait encore des gens qui passaient sur le pont. Eh bien, le pont, il est parti. Il est parti avec le mur d'eau qui est arrivé de manière très, très, très rapide. Donc, destruction du pont de Daglan en 60, des très gros dégâts dans la vallée. Et puis, ça a été pareil dans la vallée de la Vézère. J'ai récupéré dans le bouquin, vous verrez, des interventions de députés locaux qui demandent des aides pour les populations touchées par l'inondation. Mais c'était pas la première fois. C'était pas la première fois. 1915, là, c'est le maire d'Alou à l'affluent de la Lousse à Saint-Pompon, qui a complètement détruit toutes les maisons de la place, la bordure de la place de Saint-Pompon. Pourtant, quand vous passez à Saint-Pompon, si vous avez déjà regardé dans la rivière, il n'y a jamais d'eau. Il y a des plantes, il y a de tout, il y a des gens qui ont installé leur jardin. Et ben oui, de temps en temps, là, il y a eu des morts. Il y a eu, je crois, 2 enfants noyés et une épicerie où il a fallu défoncer le mur pour sortir l'épicière et ses clients qui étaient restés bloqués. Ça arrive tellement vite, ils sont restés bloqués dans la boutique. Donc ça peut aller très très vite. Et à 1900 aussi, il y a eu des orages terribles. Et là, c'est pas la rivière qui a débordé, c'est l'eau a dévalé des coteaux et a détruit une partie de Daglan et de Castelnau, et les gens se sont réfugiés dans l'église. Donc ça peut aller relativement vite du fait de ces caractéristiques de sol. Alors l'eau, évidemment, pour le pays, c'est une source de vie. Ça, c'est le Séou vu le château du Repère, ici, donc entre Bouzic et Gommiers. Donc c'est évident dans la vallée, pour l'irrigation des cultures, Et on voit la différence avec sur le plateau, le Causse, avec ses pelouses sèches et le maquis, les chênes verts et les chênes pubescents. Donc nos anciens, ils s'y trompaient pas, ils savaient faire. Ils savaient préserver l'eau parce que c'était crucial pour eux quand ils étaient sur le coteau. Donc dans toutes les fermes, il y avait une citerne. Alors un puits, là c'est à Vérines, il y a un puits. Beaucoup de familles ont détruit les citernes. Ça a peut-être été une erreur, parce que vu les temps que l'on connaît aujourd'hui, c'est peut-être pas mal d'avoir des récupérateurs d'eau. Toutes les sources, tous les points d'eau étaient construits, appareillés, nettoyés, parce que c'était crucial pour eux. Surtout pour les femmes, malheureusement, parce que c'était elles qui étaient de corvée d'eau avec les enfants. C'est elles qui allaient chercher l'eau, avec souvent la cruche sur la tête. Donc s'ils ne préservaient pas ces sources, il fallait descendre après à la rivière. Donc ça, il y a Compagnac-les-Quercy, un petit circuit des fontaines, qui est sympa à faire. Et vous verrez que là, tous les points d'eau sont appareillés. Et là, c'est de l'eau. On est là-haut sur le Causse. Vous descendez une dizaine de marches. Et là, il y a un filet d'eau qui passe dans une fracture dans le calcaire. Et voilà les pots que les femmes portaient sur la tête quand elles allaient chercher l'eau. Donc vous n'avez qu'à faire un petit essai pour voir comment. Et vous verrez que c'est relativement compliqué, hein, surtout quand c'est plein d'eau. Donc ça, c'était la vie courante jusqu'au milieu du XXe siècle. Parce que chez vous, je ne sais pas, mais Daglan, c'est 1960 l'arrivée de l'eau, hein, si ma mémoire est bonne, l'eau courante. Donc, au XXe siècle, il y a eu un bouleversement complet. Maintenant, on ouvre le robinet, l'eau coule, pas de problème. Et puis, alors mon grand-père, il serait tombé raide. Les cultures sont dans les coteaux maintenant. Parce que dans la vallée, les gens n'ont pas le droit d'arroser parce que le CO est sec. Mais dans les coteaux, on pompe l'eau à Caumont, on pompe l'eau après Feyrac, là-bas. Et il y a des tuyaux, celui de Feyrac, il remonte jusqu'à Saint-Pompon. Donc tout le long du tuyau, les gens arrosent. De l'autre côté, Nabira, les gens arrosent avec Caumont. Il y a le forage de Bouzy qui dessert aussi une partie du Causse. Et non, maintenant, les noyers, ils sont là-haut. Alors, si nos anciens revenaient, ils seraient fous. Et en bas, eh ben, il n'y a pas d'eau. Sauf dans les piscines. Et donc, j'ai rajouté, là, je ne l'avais pas mis il y a 3 ans, mais au XXIe siècle, il y a une nouvelle prise de conscience, c'est que maintenant, tous les étés, on nous demande de fermer l'eau. Et on nous rationne en eau. Donc, attention, mesdames, j'ai peur qu'on revienne bientôt à ce système. Donc, voilà. Alors, aux sources de vie, c'est évident. Sources d'énergie, c'était jusqu'au début du XXe siècle, c'était la meilleure source d'énergie. Les moulins, et puis à partir du moulin, donc sur le CEU, depuis la source jusqu'à Castelnau, il y a à peu près 120 moulins. Alors, il y a une association dans le Lot, j'ai pas révisé avant de venir, j'ai oublié, c'est pas Concorès, c'est... J'ai oublié dans quel village. Il y a une association qui a recensé tous les moulins sur le Céou et les affluents dans le Lot, qui a fait un petit bouquin très, très sympa à lire aussi. Et moi, je me suis contenté de les recenser à partir de Pontcarral. J'en ai recensé 33. Alors, il y en a certains qui n'existent plus, mais qu'on retrouve sur les cadastres Napoléon ou cités dans des écrits plus anciens. Évidemment, il n'y en a plus aucun en fonctionnement. Et certains ont conservé leur meule, Ça, ce sont des meules qui sont un moulin grand sur la route entre Bouzic et Gourdon. Ça, c'est le moulin de Gommiers. Ça, c'est la levée du moulin de Tournepic, si ma mémoire est bonne. Pardon, Mel, oui, peut-être, oui, c'est possible, oui. Mel, oui. Parce que j'ai pris les photos, mais le Covid m'a quand même un peu décalé dans le temps, donc c'est des photos que j'ai prises il y a presque 10 ans maintenant, là, oui. Et donc, à partir de cette source d'énergie, eh ben, on pouvait moudre du grain, on pouvait, alors, chose importante à l'époque, avant l'électricité, avant les lampes à pétrole, on s'éclairait à l'huile de noix. Donc les moulins, avec cette fois-ci la meule verticale pour presser les noix, il y avait les moulines, c'est-à-dire on se servait de la force motrice de l'eau pour faire marcher les soufflets des forges. Donc on montait en plus en température que des soufflets qui fonctionnaient à l'huile de coude. Les foulons, donc les carderies, le cardage de la laine, que j'ai connu encore dans ma jeunesse, quand on se baignait, certains qui sont dans la salle étaient avec moi, de temps en temps le CU arrivait bleu, jaune, rouge, ben, c'était la carderie qui teignait la laine. On ne sait pas avec quoi, mais on est toujours là. Et la couleur partait, en fait. Et puis, il y avait aussi on s'en servait aussi pour faire actionner des scieries. Alors, je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs Jean-Paul qui m'a dit une fois, mais au fait, ils fonctionnaient combien de temps par an, ces moulins ? Parce que, effectivement, c'est une bonne question, parce que je me suis dit, mais effectivement, oui, le CEU, il devait avoir des ASEC à l'époque aussi, donc je suis retourné aux archives, et j'ai recherché quelque chose, et effectivement, il y a toujours quelqu'un qui a fait une étude. Donc, dans les années 1830, après la Révolution, ils ont fait un bilan de l'activité des moulins, et en fin de compte, ils ne fonctionnaient que 3 à 6 mois par an. Parce que pendant les ASEC, pas d'eau, donc la roue ne tournait pas. Alors un petit détail, c'est que les roues étaient horizontales sur le CEU, sauf une. Il y en avait un seul qui avait une roue verticale. Et donc si pas d'eau, on ne fait pas tourner la roue. Par contre, s'il y a trop d'eau, ben, le meunier, il a déménagé. Mais il n'est plus dans la maison, il est sous l'eau. Donc dans les deux cas, il ne peut pas travailler. Donc, chaque meunier avait déclaré sa période d'activité et, en fin de compte, il ne travaillait jamais plus de 3 à 6 mois par an. Alors, la dernière image, eh ben, en fin de compte, la relation entre l'homme et la rivière, elle a bien changé. Hein. Ça, c'est une carte postale de Daglan, le pont, l'ancien pont. On voit le bord de rivière, il est nickel. C'était propre. Nettoyer, parce qu'ils avaient besoin de l'accès à l'eau direct, facile, pour l'agriculture, pour le bétail. Il leur fallait un accès à l'eau facile, et puis plus la rivière était nettoyée, moins elle débordait, en fait. Donc ils nettoyaient constamment, et puis les meuniers nettoyaient leur bief, donc tout était absolument nickel. Et puis après, à partir des années 50, il y a eu un délaissement complet. Donc maintenant, c'est encore le cas, déjà quelquefois, c'est pas facile de voir l'eau, parce qu'il y a une masse de végétation qui a poussé le long de la rivière. Il y a beaucoup de terres, plus personne ne les travaille, donc il n'y a plus d'entretien. Donc il y a eu un délaissement complet de la rivière, jusqu'au moment où c'est devenu un élément contributif pour attirer les touristes. Et donc, à ce moment-là, les gens ont commencé à retravailler, à renettoyer la rivière à partir des années 70. Bon, j'avais oublié celle-ci. Les gens vivaient pas loin de l'eau, mais ils vivaient aussi beaucoup sur l'eau. Ils pêchaient. Et puis maintenant, on est passé encore dans une nouvelle étape. On essaye de la préserver. On essaye de préserver d'abord sa biodiversité. Parce que qui a connu le CEU il y a 30 ou 40 ans se souvient qu'il y avait quand même des plantes aquatiques dedans, il y avait des poissons. Maintenant, c'est complètement minéral. Il y a de l'eau et des pierres. en gros, je résume, mais c'est un peu ça, du fait des nitrates qui ont complètement asphyxié la végétation aquatique. Mais on voit que ça revient. Mon ami André Jarzac, qui a son potager près du Céou, en avait marre d'aller puiser avec son arrosoir dans la rivière. Donc un jour, il a fait venir l'entrepreneur du coin avec sa pelle. Il lui a dit, fais-moi un trou, là, que je puisse puiser l'eau directement dans mon potager. Donc deux coups de pelle, il lui a fait un trou gros comme ça. Évidemment, comme il est près de l'eau, la nappe est dessous, l'eau est là. Et donc, un an après, dans le trou, il y avait des joncs. Alors qu'il n'y a plus un jonc sur le Céou. Et bien, la graine était là. Donc, à partir du moment où chimiquement l'eau a retrouvé sa capacité naturelle, et bien, les plantes reviennent toutes seules. Donc, je suis assez optimiste. Ça revient progressivement. Et, merde, autant pour moi. Et donc, dernier. Et puis, alors, l'autre problème, et bien, c'est le changement climatique. Si les étés deviennent de plus en plus chauds, surtout sans eau, sans orage, et de plus en plus long, ben les ASEC risquent de devenir de plus en plus longs également. Mais ça, je peux pas vous, j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire. Donc je vous conseille quand même, pour ceux qui les ont gardés, de garder vos citernes. Donc voilà, donc sur les paysages. Alors je voulais vous parler aussi des paysages qui sont associés à la rivière et à son environnement. Donc là, c'est une photo d'avion au niveau de Castelnau, donc la vallée du Céou que vous reconnaissez, donc, avec ses deux versants. Et un paysage, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des éléments naturels. Et le premier, c'est la géologie, c'est le sous-sol. Parce que le sous-sol crée le sol. Et sur le sol, il y a la végétation. Et la végétation dépend du sol, donc du sous-sol. Donc le géologue, il est bien à la base de tout. C'est juste un petit message. Et après les éléments naturels, il y a l'empreinte humaine qui est plus ou moins heureuse. Donc là, bon, il y a les bâtiments, il y a le château de Castelnau, le pont. Donc et voilà, l'ensemble forme un paysage. Le message que je voulais faire passer ici, c'est que les paysages, ça va étonner personne, varient dans l'espace. Vous n'avez qu'à vous circuler en voiture, tout le monde le voit. Mais il ne faut pas oublier, avec les discussions qu'on entend actuellement, c'est que ce paysage, il varie dans le temps aussi. Il a beaucoup varié dans le temps. Alors, une petite carte toute simple, sans rentrer dans les détails. Le Céou, alors je ne sais pas pourquoi, il a sauté quand j'ai transféré l'image. Castelnau est là. Donc, en fait, il est à peu près ici. Il circule sur ce bleu clair, qui est bien le calcaire jurassique supérieur. Et puis, sur la bord, ici, on voit toute la bordure du massif central avec des séries de plus en plus anciennes, de l'ère secondaire jusqu'aux séries de socles du massif central. Et puis, on voit que cette extension de Causse que l'on connaît en Périgord du méridional, qui est une extension du Quercy, s'arrête brusquement sur ce grand trait noir ici, qui va à peu près de Périgueux à Cahors, et qui est une énorme faille qui a fonctionné depuis très très longtemps. Et puis en refaisant un petit exposé pour Saint-Pompon, qui m'avait demandé un exposé parce qu'ils avaient entendu dire qu'une faille passait dans le village, ils voulaient savoir exactement, ils voulaient en savoir un peu plus, j'ai refait une recherche et je me suis aperçu qu'en fait, cette faille, Elle a bougé au cours des temps géologiques, mais elle a encore bougé le 15 octobre 1847. Il y a eu un tremblement de terre à Surac, qui a été évoqué dans l'écho de Vézonne du 20 octobre 1847. Les maisons ont tremblé. Et puis il y a eu un petit tsunami à la confluence entre Vézère et Dordogne. Donc, elle est très peu active. Ils ont mis un séismographe dans les années 60 sur la faille à côté de Campagnac, et il n'a jamais enregistré un seul séisme, donc ils l'ont démonté à la fin des années 80. Donc, a priori, elle n'a pas bougé depuis 1847. Alors, ce que je voulais dire, ce n'était pas tellement la faille, c'est que, je pense que ce n'est pas un secret pour vous, suivant que vous circulez sur ce calcaire du Causse ou que vous circulez dans les Bourianes, ici, dans la forêt de la Bécède ou sur les coteaux du Sarladais, les paysages sont complètement différents. Et ça, c'est lié à la géologie. Si vous êtes sur les coteaux du Causse, ça ressemble, l'été, même l'automne et l'hiver, ça ressemble à ça, c'est-à-dire on voit des éperons rocheux, des pelouses sèches et un maquis de chênes pubescents, chênes verts, genévriers, donc un paysage très caractéristique. En bord de route, on voit tout de suite le rocher qui affleure, ça c'est du chêne pubescent. Par contre, si vous allez côté Crétacé, série beaucoup plus graisseuse qui conserve l'eau, très vite, vous avez des bois, des forêts. Ça, c'est près de Saint-Laurent-la-Vallée. Et puis, les bords de route, vous ne pouvez pas vous tromper, il y a du châtaignier. Vous ne trouverez jamais un châtaignier sur le Causse de Daglan, jamais. Ça n'est même pas du tout le calcaire. Par contre, le châtaignier, un sol siliceux, humide, il se plaît. Le cep, il est là. La fougère, la bruyère. Et si vous voulez trouver du cep, il faut aller là. Là, c'est pas la peine. Là, la truffe, oui. Là, ce côté-là, la vigne, la truffe, elle est là. Alors là, ils essaient de faire un peu de vin, mais c'est moins bon. Et il y a surtout du cep. Donc, ce paysage, c'est typique. Et quand vous passez une faille comme la faille que je vous ai montrée, c'est coupé au couteau dans le paysage. Vous le voyez parfaitement bien. Dès que vous voyez apparaître les fougères, les châtaigniers et beaucoup de conifères, vous êtes passé de l'autre côté. Alors, la variation du paysage dans l'espace, c'est simple. Par contre, ce que je voudrais essayer de vous faire passer comme message, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que le paysage, il a changé au cours du temps. Avec les travaux sur l'évolution du climat, les géologues ont beaucoup travaillé sur la reconstitution des climats globaux sur Terre, aussi loin qu'ils ont pu remonter. Donc là, j'ai coupé à 150 millions d'années, donc l'âge de du calcaire du Causse, du Jurassique. Et voilà l'évolution moyenne de la température sur le globe depuis 150 millions d'années. Alors attention, là c'est un peu subtil. On voyait qu'on commence en 5, 10, 15, 20 millions. Puis après, ils ont compressé un peu l'échelle, 200, 400, 600. Excusez-moi, en dizaines de mille ans, donc 20 000 ans, 5 000 ans, 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans. Et le million d'années est là. Et après, c'est 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions. Après, il y a une saute d'échelle, 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions, 60 millions. Et après, ils sont passés en centaines, mais j'ai coupé la figure. Bon, c'est pas le but du discours n'est pas celui-là. Le zéro moyen actuel est là. Et ça, c'est la courbe de température moyenne globale. Donc on voit quand même qu'il y a eu un optimum thermique sur Terre à plus de 10 degrés par rapport à l'actuel, à peu près il y a 60 millions d'années. Avant, les températures étaient chaudes, beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui. Elles sont restées encore un petit moment chaudes. Et puis, à partir de 30 millions d'années, à peu près, elles ont commencé à décroître, à décroître, à décroître. Et puis là, on est rentré au niveau, à 3 millions d'années, 2,5 millions, on est rentré dans les premières glaciations quaternaires. Et là, on est passé dans des températures qui certes oscillait entre des glaciaires et des interglaciaires, mais il faisait beaucoup plus froid qu'aujourd'hui. Et puis voilà la dernière phase interglaciaire qui se termine ici, et depuis 12 000 ans, on est à peu près sur un plateau qui est jusqu'à aujourd'hui. Alors il faudrait grossir un peu plus pour voir les évolutions historiques, là, je ne suis pas rentré dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec une évolution de température comme ça, les paysages ont complètement changé en Périgord, Et il faut rajouter à ça la tectonique des plaques, puisqu'on sait que les continents ont bougé à la surface de la Terre. Donc suivant que le continent se trouvait près du pôle ou près de l'équateur, le climat variait également. Donc en fait, voilà. Il y a 150 millions d'années, voilà une petite carte reconstituée, il n'y a pas d'Atlantique. Atlantique Nord, là c'est la Floride, là c'est l'Afrique. Ce petit truc, là, c'est la France, là, le Groenland, le bouclier scandinave. L'Atlantique commence tout juste à s'ouvrir, et en fait, il y a un énorme océan, ici, entre Afrique et Europe, qui va se refermer après, et ça formera les Alpes. Donc, le Périgord est ici. Et là, on est... Alors, c'est un peu trompeur, les couleurs, je voulais les refaire, mais c'est compliqué... Le jaune, c'est de la mer peu profonde. Et le bleu, c'est plus profond. Donc on est là, il fait assez chaud, il se dépose notre calcaire du Kos dans la mer. C'est le golfe Persique, en gros. Pour mieux vous écrire, c'est le golfe Persique. Dépôt du calcaire, ça ressemblait à ça. Daglan et au Sarlat, même, ça ressemblait à ça. Et il y avait des petites bestioles qui se baladaient sur la plage. Des petits dinosaures. Ça, ce sont les ptérosaures de Cray-Sac, pour ceux qui ont été à Cray-Sac dans le Lot. Il y a une magnifique dalle avec des empreintes de ptérosaures qui se promènent en bordure de l'eau. Donc, à cette époque-là, le climat était complètement différent. Allez, 55 millions d'années... Donc la même carte, vous voyez que cette fois, l'Atlantique central s'est bien ouvert. Là, c'est donc la côte américaine. Là, c'est l'Espagne, la France, l'Afrique, l'Amérique du Sud. On a bien commencé à refermer le vieil océan. Là, ça commence à se refermer. Nous sommes là. La mer s'est retirée. Elle ne reviendra plus, d'ailleurs, sur l'Aquitaine. Et à cette époque-là, on avait un climat équatorial humide. Ça ressemblait à ça, en fait. Avec des latérites. Et l'altération des séries carbonatées, des altérites. Et c'est ça que l'on retrouve quelquefois en bordure des routes, ici, ces séries rouges. Ça, c'est sur la route entre Salviac et Gourdon. Au-dessus du calcaire, on retrouve ces poches de latérites rouges. Très riche en fer, et quand vous êtes sur un village ou sur un hameau qui est bâti sur ces altérites, les anciens, ce qu'ils trouvaient de mieux pour bâtir, c'était les nodules de fer. Ça, c'est une grange à l'Aubrecourt, à côté de Saint-Martial. Elle est quasiment constituée que de nodules de fer et de grès indurés qui proviennent de ces séries d'altérations. On continue. Là, on est au Quaternaire. Donc, on se retrouve mieux en géographie. Le Massif central, les Pyrénées, l'Espagne. Ça, c'est la limite, pendant la dernière glaciation, la limite de la calotte glaciaire, des glaciers, et sur les Pyrénées. Et puis, ces altérations, ces évolutions rapides de température entre périodes chaudes et périodes froides. Enfin, froide et puis un peu plus chaude, glaciaire, interglaciaire, plus 2 ou moins 12, et 400 000 ans, 300 000 ans, 200 000 ans. Donc, à cette époque, dans les interglaciaires, on était plutôt dans un paysage, on va dire, de toundra, à l'avant des glaciers. Quand les glaciers fondaient, on avait des cours d'eau qui divaguaient dans l'avant-pays. Et puis, dans les périodes glaciaires, le gel fendait la roche, enfin l'eau infiltrée dans le calcaire gelait, ça faisait éclater la roche, et au dégel, toute la pellicule, toute la partie supérieure qui avait été cassée par le gel, descendait en solifluxion, ça faisait une masse qui descendait, et c'est ça qui forme ce qu'on appelle chez nous les castines. Il y en a partout qui drapent les versants des coteaux. C'est ce qu'on voyait au début, le coteau avec une pente très, très uniforme, c'est enrobé de castines. Ça s'appelle une grèze, normalement en français. Et bon, ici, on connaît bien ça sous le nom de Castine. On s'en mettait plein les pieds à l'époque quand c'était bien mouillé. On prenait la poussière de la voiture précédente quand, en plein été, quand c'était bien sec. Et ben voilà, ça a couvert les routes pendant très longtemps. Et ça, ce sont des dépôts qui sont liés aux périodes glaciaires-interglaciaires de l'ère quaternaire. Et on les voit très bien dans les paysages actuels, dans les vallées. Et puis ensuite, dans le paysage, eh bien, il y a l'empreinte humaine. À partir du moment où l'homme a commencé à se sédentariser, c'est-à-dire le néolithique, 9000, 10000, il a commencé à bâtir, à défricher pour cultiver, et ça a encore été une modification de paysage. Mais cette fois, on est sur le temps plus court, on est sur des périodes de 10000 ans. Et encore une modification du paysage, ça c'est le Péruzel, le hameau du Péruzel à Daglan. Et une modification encore plus rapide, si j'ai le temps, on parlera de la vigne, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est le défrichement 19e siècle, où les gens se sont activés à défricher pour planter de la vigne, le phylloxéra, arrêt brutal de la vigne, et voilà une carte postale 1900 d'Aglan, il n'y a pas un arbre sur le coteau, je me suis remis au même endroit, j'ai pris une photo il y a 2010, ben, il faut y aller l'hiver, parce que l'été, on voit rien. On ne peut pas prendre la photo. Et c'est complètement couvert d'arbres. Donc la végétation a repris ses droits, le maquis a repris ses droits. Et puis, ces petits points verts, là, ça, c'est encore une action humaine. Ce sont les campagnes de plantation de pin dans les années, au début du XXe siècle. Ils n'avaient plus beaucoup de ressources du fait que la vigne s'était finie. Donc il y a quelqu'un qui a eu l'idée, il s'est dit, tiens, on commence à exploiter beaucoup les mines de charbon, il faut des bois pour étayer les galeries, et ben on va planter du pin. Donc ils ont fait des tests, c'est le pin d'Autriche qui a le mieux réussi, ils ont planté du pin d'Autriche, et ben, on l'a toujours ce pin d'Autriche, il est là, et il a essaimé partout. Et je pense que maintenant, plus personne n'ira le chercher pour le sortir de là. Et ça, c'est un impact de l'homme des années. Les campagnes de... il ne les vendait même pas, les pieds, il les donnait. Dans les journaux des années 1910-1913, vous trouvez ces annonces pour récupérer des plants pour planter du pin, qui maintenant, vous retrouvez dans nos paysages des coteaux du Céou. Voilà, alors je voulais passer. Ce qui est intéressant quand on. Le 19e siècle, c'est un siècle que je ne connaissais pas, on en discutait à table à midi. Quand je n'ai pas commencé maintenant dans les lycées, mais je ne me souvenais pas, à part Napoléon, je ne me souvenais pas que quelqu'un m'ait enseigné le 19e siècle dans mon cursus de lycée. Je me souviens des guerres napoléoniennes et après 14. Mais au milieu, c'est un grand trou noir et je pense qu'on ne nous l'a jamais enseigné. Alors, pourtant, c'est un siècle extraordinaire. C'est quand même, il n'y a pas beaucoup de siècles comme ça en France. Il y a eu trois républiques, deux empires et deux royautés. C'est quand même extraordinaire. Et tout ça en 80 ans. Donc, vous imaginez un peu on ne change pas de majorité à l'Assemblée nationale. Hein. C'est quand même c'est drastique comme changement. Et j'ai repris tous les recensements depuis tout ce que j'ai pu trouver depuis 1793. Donc sur la vallée du Céou et les communes entre Castelnau et Saint-Pompon, il y avait à peu près entre 8 000 et 10 000 habitants au début du 19e siècle. Et puis le phylloxéra, chute drastique, premier exode rural. Chute drastique de la population. Et la deuxième lame, la guerre de 14, rechute drastique, et puis après, un long déclin, progressif mais constant. Alors j'ai vu le petit drapeau européen, je ne sais pas si c'est grâce à lui, mais ça s'est stabilisé dans les années 80, et depuis, ça a tendance à remonter. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y a plus tellement de maisons vides dans nos villages. donc, et d'un OMO. Donc je pense que la courbe doit continuer à légèrement monter, mais elle s'est stabilisée. Alors ce qui est intéressant, c'est que le chamboulement pour les locaux, fin du 18e, quand on lit les écrits de l'époque, quand on lit par exemple l'enquête de Cyprien Brard qui avait interrogé tous les maires de toutes les communes de Dordogne, tout le monde se plaignait de l'état désastreux des chemins, que la circulation était quasiment impossible. Vu l'état des chemins, les gens circulaient plutôt sur les points hauts, d'abord parce que les chemins étaient meilleurs que dans les points bas, puis ensuite ils étaient méfiants, ils voyaient voir le danger de loin. Alors que quand on est dans le trou, on ne voit pas arriver le problème. Donc ils circulaient plutôt sur les hauteurs. Et les trois grands axes, bon, je ne vais pas aller jusqu'à l'ouest, jusqu'à Belvès, Montpazier, mais c'était Castelnau, Saint-Pompon. Alors, on ne passait pas à Daglan à l'époque. On coupait directement depuis Perretaillade, ici, on retombait à Saint-Pompon par le Maine. On ne passait pas en bas. Et de même ici, on passait directement de Sénac. On passait au château du Repère, où il y avait un guet, et on filait vers Cahors au sud. Alors, la Dordogne coupait complètement ce Périgord sud de la partie nord, il n'y avait pas de pont, il y avait des bacs, mais à péage, il fallait payer pour passer. Donc les gens devaient réfléchir à deux fois. Et donc, la circulation était relativement limitée entre les villages. Et par contre, ce qui fonctionnait très bien, c'était la batellerie sur la Dordogne. Donc, l'axe commercial, il était est-ouest, en fait. Il était très peu nord-sud. Alors, il n'y a pas de pont sur la Dordogne, à l'époque. Et puis, sur le Séou, n'importe comment, à chaque crue, ils étaient tous emportés, il fallait rebâtir. Et pour les reconstruire, il fallait que le maire décrète des journées de prestation, il fallait le bon vouloir des habitants pour reconstruire le pont, et puis un peu de financement, chose qu'ils ne trouvaient pas toujours. Alors, quelques exemples. Voilà les chemins qu'on connaît. Ça, c'est Michel qui m'a passé cette magnifique photo de Aspantira. Les chemins sur le Causse, bordés de murailles. Les guets, ça c'est Père Taillade à côté de Saint-Cybranais. Alors, le recensement de 1835, 9718 habitants, 10 000 animaux domestiques. Ça vous donne une idée du ratio. Dont 1000 bœufs, 250 et un âne, 225 mulets, 202 chevaux. Donc, il fallait d'un animal de trait. Alors, j'ai laissé tomber les moutons. Il y avait 9000, je sais pas, il y avait presque une tête de mouton par tête d'habitant. Donc, le pastoralisme était bien développé. Évidemment, tous ces métiers, maréchal ferron, bourrelier, charron, voiturier, etc. On en retrouve encore les traces ici à Daglan sur une maison. Ici, une trace de, je vais dire un tonnelier de charron à Juillac à Saint-Laurent. Donc on retrouve encore des traces de ces métiers de l'époque. Seconde moitié du 19e siècle, c'est le début de l'ouverture. Ça, c'est un plan qui avait été fait lors du dossier de préparatoire de construction du pont de Castelnau. Ils avaient fait un état des lieux des chemins, depuis les routes départementales jusqu'aux routes chemins vicinaux. Donc vous voyez qu'encore on circule assez est-ouest. Il y a deux ponts. 1843, c'est le pont de Sénac. Et 1849, le premier pont de Siorac, qui est parti deux ans après, et qu'ils ont rebâti en 55. Donc deux axes de transfert nord-sud, et puis toujours les bacs. Ils sont toujours là. On passe beaucoup de gens passent par les bacs. Alors ça, c'est de... j'ai pris toute cette information, je ne l'ai pas dit, mais peu importe, je l'ai cité avant, c'est Anne-Marie Cocula, sa thèse sur la batellerie de la Dordogne. C'est elle qui m'a fourni un maximum d'informations là-dessus. Les routes sont améliorées parce que les gens se plaignaient qu'ils ne pouvaient pas circuler, donc ils ne pouvaient pas commercer, ils ne pouvaient pas mener leur production. Le vin d'Aglan, de Campagnac, il leur fallait de bonnes routes pour l'amener au port de Dôme. Et puis vous voyez que même il n'y avait pas de bonnes routes encore entre Daglan et Saint-Cybranais. C'est qu'en 1883 que le maire de Daglan, à force de faire des pieds et des mains, a réussi à obtenir cette route dans la vallée du Séou. Les premiers ponts, donc, mais il fallait payer. Les premiers chemins de fer qui vont arriver, le Périgueux-Agen. Et puis, à cette époque-là, c'est le seul dans le secteur. Et puis, la batellerie commence à décliner sur la Dordogne parce qu'elle est concurrencée par le chemin de fer. Donc voilà, les premiers ponts, les premiers chemins de fer, mais il y a encore les voituriers qui viennent chercher les gens dans les gares, ça c'est à Gourdon, pour les emmener chez eux. Le pont de Sénac. Par contre, il y a encore des bacs qui permettent aux gens de traverser. Alors, des fin 19e, début 20e, c'est d'abord le train qui devient majeur. Donc, toujours cette ligne qui fonctionne toujours, 1863, la Périgueux-Agen. Celle-ci, Sarlat-Gourdon, 1902, mais ce sont des lignes qui arrivent trop tard. C'est déjà dépassé, le train. Pour les échanges commerciaux. Donc elle s'arrête en 1940. Et puis le fameux tram, Sarlat-Villefranche. Alors ils en ont discuté pendant 40 ans. Alors évidemment, quand ils se sont décidés, c'était trop tard. Donc d'abord, trouver l'argent. Personne ne voulait payer. Et puis quand ils se sont mis à peu près d'accord pour payer, ils n'étaient pas d'accord sur le trajet, sur le tronçon. Donc Dôme voulait que le train passe à Dôme. Alors c'est pas évident de passer là-haut. Donc Saint-Martial voulait que le train passe à Saint-Martial. Donc aux archives, vous trouverez des plans où le train passe ici, là, au pont de Grosjac, revient par Dôme, va à Saint-Martial et revient à Daglan. Alors quand on discute de nos déviations à l'heure actuelle, c'est pas nouveau. Hein. À chaque élection, ça revenait sur le tapis. Il s'est engueulé à nouveau et l'affaire n'avançait pas. Donc, premier train, 1912. Et je crois que les premiers dossiers, c'est 1880. Donc, et puis, comme il est arrivé trop tard, et bien en 1935, et bien tout le monde commençait à circuler en voiture et bien, c'était plus rentable, ils l'ont arrêté. Donc, on retrouve. Alors, c'était en fait un tram à voie étroite qui était sur la route. Donc il emmerdait tout le monde, les gars qui rentraient le foie en charrette, les premières voitures, donc c'était la guerre sur le. Il y avait les accidents tous les jours, les gens démontaient les rails, oubliaient de les remonter, il y a tout dans le bouquin, c'est assez marrant à lire d'ailleurs. Et 1935, ils ont arrêté la ligne, c'était pas rentable, et puis il n'y avait plus personne dans le train. Et là, cette fois, on a des ponts. Le Surac, il était déjà là. Saint-Cyprien, Alas, je cherche le nom. Castelnau, 1883. Dôme, il était là. Vitrac, Gros-le-Jac. Donc là, il y a des passages. On commence à circuler nord-sud entre Sarlat et le sud de la Dordogne. Alors, grand débat aussi super intéressant à lire, c'est que tous ces ponts avaient été bâtis au 19e par des privés. Donc, qui dit privé, dit j'investis, mais bon, il me faut, comme disait Thatcher, my money back, il faut que je récupère mon pognon. Donc, ils étaient à péage. Et donc, les gens ont commencé à râler. Donc, j'ai retrouvé, tout était bien codifié, une charrette, deux roues, quatre roues, un vélo, tant de... chaque tête de mouton, tout était codifié. Et au bout d'un moment, bah, les gens en ont eu marre. Hein. Alors, il y a cet article qui est pas mal. Hein. On nous augmente encore une fois le péage, mais enfin, la moitié des ponts appartiennent aux mêmes, donc évidemment, c'est facile. Ne peut plus sortir de ce maudit canton sans que vous soyez forcé de vider votre bourse. C'était du racket pour eux. Donc, à force, les communes se sont mis d'accord avec l'aide du département et ont racheté les ponts. Donc ça, c'est l'article de l'Union Sarladaise. 21 avril 1901, on leur annonce que le département vient de racheter le pont de Dôme et qu'à partir de là, il sera gratuit. Donc ça a complètement changé le commerce dans le secteur, parce que les gens ne traversaient pas parce qu'il fallait payer. Donc ils restaient d'un côté ou de l'autre de la rive. Le tram, donc le voilà en gare de Daglan. Et après, il a été remplacé par un bus. Voilà l'automobile qui apparaît. Ça, c'est Madame Béinet, son père. C'est son père qui était le chauffeur. Et ceux qui sont au fond, là-bas, ils doivent se souvenir du passage du bus qui traînait sa remorque derrière. Il jetait les cartons depuis le toit, là-haut. Et il faisait tous les jours, il faisait la route aller-retour de Sarlat, Villefranche et retour. Alors, l'automobile, ça a tué le train. Les gens ont commencé à circuler, d'abord sur des routes castinées, puis après, progressivement, sur du macadam. Les premières pompes à essence, celles s'il y a chez Burg à Vitrac, avec le système où on pompait, on faisait monter l'eau dans le truc en verre, et puis après on lâchait, et puis toute l'eau. On avait le temps de discuter avec le pompiste. Là, il y avait... Pardon ? L'essence, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah non, l'essence. Ben c'est l'ancien pétrolier qui parle. Et donc l'essence, oui. Qui descend dans le... Et les métiers qui vont changer, tous les bourreliers, les charrons et autres voituriers, ben, c'est fini pour eux. Et on voit apparaître les garagistes, les réparateurs de vélos et tous les nouveaux métiers. Les mécaniciens. Alors voilà, alors là... Donc, si vous voulez aller plus loin, la première difficulté, c'est que le bouquin, j'en ai plus que deux, dont celui-là, qu'il faut... Donc, vous pourrez essayer de le voler à ceux qui l'ont déjà dans la salle. Donc, j'espère le ressortir cet été. Et par contre, depuis un an et demi, je m'occupe de relancer l'exposition de la Maison de la Perseche et du Causse à Daglan, où je reprends une partie de ce que je viens de vous expliquer et d'autres choses que je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui. Et cette année, ce sont les 30 ans de la Maison de la Pierre Sèche à Daglan. Et donc, le thème, évidemment, c'est le Causse, la pierre sèche. La pierre sèche étant liée à la vigne, on arrive à boucler, à faire le tour de cet ensemble, depuis la géologie jusqu'à l'évolution historique. Alors, je ne sais pas l'heure. On arrête. Eh bien, c'est bon. Voilà, et donc... Donc, si vous êtes intéressé par l'exposition, c'est à Daglan, ouvert en saison. Je fais régulièrement des excursions à la demande, soit pour expliquer les paysages, ce dont on a parlé tout à l'heure, soit pour expliquer l'historique, l'histoire et les sites d'exploitation de ressources minérales, surtout du 19e, mais même avant. Il y a eu beaucoup d'exploitations sur ce secteur. Le fer, depuis très longtemps, évidemment la pierre à bâtir, l'ocre, avec les altérites que je vous ai montré tout à l'heure, les gens produisaient de l'ocre avec le plus fin, à Saint-Pompon, le lignite, à la chapelle Péchaud, les anciennes mines de lignite, la pierre lithographique, qui a essayé de se développer au début du XXe siècle. Et peut-être que j'en oublie. Donc j'ai une SQ aussi qui est montée pour présenter la chaux, évidemment, avec le calcaire. À partir du moment où on a un combustible et du calcaire, ben, les anciens faisaient de la chaux. Et puis, pardon ? Oui, alors à Dôme, un coin un peu spécial, la meulière, le silex et les meules. Et puis, vous m'avez coupé, du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Enfin, peu importe, la dernière ressource que je voulais citer, elle m'a échappé, mais c'est pas grave. Et donc, il y a tout... et la chaux, et puis le ciment après. Parce qu'il faut savoir que le ciment a été inventé par un Français, Vaucat, et qu'il l'a inventé pour bâtir le pont de Souillac. Et comme il n'avait pas déposé le brevet, c'est un Anglais qui l'a déposé, et c'est devenu le ciment Portland, mais qui a été inventé pour la construction du pont de Souillac. Et ça a donné la cimenterie de Dallas, qui a fonctionné jusque dans les années 60. Tout ça parce que on avait d'un côté, ils avaient le calcaire et ils avaient au début le lignite de la chapelle. Un combustible du calcaire, ben on fait de la chaux et du ciment. Et donc ça a fait ça qui a fait tourner l'économie. Et il y a des milliers de personnes qui ont travaillé dans ces installations, petite industrie locale, qui est complètement oubliée aujourd'hui. D'ailleurs, qu'on demande quelquefois aux gens, ils me disent, ben non, ici, il n'y a jamais eu toute cette activité, mais si, si. Ça a fait travailler toutes des générations de gens qui, généralement, étaient paysans et allaient travailler dans ces petites usines pour faire un peu gagner un peu de monnaie, d'espèces, d'argent sonnant et trébuchant. Voilà. Oula, ce que je crains le plus. Là.
Oui, merci. Merci pour ce bel exposé là, du terroir. Et j'avais une question un petit peu, on a tous, sur les paysages, on a tous appris à l'école les vallées en U, les vallées en V. Nous a tous raconté que les vallées en U, c'était les origines glaciaires. Et je crois que vous nous avez un petit peu dit que... les vallées en U du Céou et de ce pays.
Alors, elle n'est pas en U, le Céou, en fait. Elle est au niveau des falaises, c'est abrupt. Quand on regarde en haut, je sais pas, on ne peut pas revenir sur la... Non, on ne peut pas revenir. Je m'en doutais un peu quand on demande à un informaticien si on peut faire quelque chose, non.
Oh, attention, là.
Donc, quand vous regardez la partie haute de la vallée, ce sont les falaises du Crétacé, et puis dessous, c'est un peu du V, mais en fait c'est trompeur parce que en fait il y a le plaquage des graisses, c'est ça qui fait la pente. En fait c'est la pente qui donne cette forme. Alors ça c'est une grande énigme, ça reste une énigme pour moi. Comment une rivière peut faire un fond plat comme ça? Alors, je me suis creusé la tête pendant un moment. J'ai fait venir un collègue un jour en l'attirant avec un peu de foie gras. On a fait un tour. Et lui, il a une idée qui n'est pas bête du tout. Il m'a dit, mais en fait, peut-être que un gros interglaciaire, il y a eu un maximum de formation de graisse. Elles ont dévalé la pente. Et peut-être qu'à un certain moment, elle barrait même la rivière, la vallée. Et donc, à ce moment-là, le Céou ayant ce barrage, ça formait des lacs. Parce que pour faire des fonds plats comme ça, il faut un lac. Il faut une eau... Ah, oula, voilà, j'en prie. Il faut une eau calme. Il faut un dépôt dans un lac. Et c'est pas le Céou qui peut faire une vallée plate comme ça, c'est pas possible. Donc l'hypothèse actuelle, sauf si Jean-Paul a une autre hypothèse qui va nous aider peut-être.
On pouvait aller de Bordeaux à pied. Parce que l'océan était beaucoup plus loin. Oui. Ce qui veut dire que le niveau de marin était beaucoup plus bas. Donc le Céou, comme la Dordogne, ont dû creuser pour atteindre leur niveau d'équilibre par rapport à ce niveau océanique. Et puis quand l'océan est remonté, ben, les rivières remblaient. Donc moi, à mon avis, là, c'est remblayé. Ou si la Dordogne aussi, un fond plat, toutes ces rivières de la région ont remblayé depuis
la fin de la période glaciaire. Ça fait une géométrie qui n'est pas banale quand même, ces fonds plats.
Plus les graisses, évidemment, sur les côtés.
Donc là, pour moi, c'est encore un peu en discussion.
Cher ami, sachez que l'on ne provoque pas Michel. Voici votre photo.
Ah, super. Super. Je savais bien qu'il pouvait le faire. Donc voilà, la falaise typique du bord de la Dordogne, elle est là-haut. Et dessous, cette pente, en fait, c'est beurré de graisse. On ne touche jamais le calcaire, là. Et on va le toucher tout en bas. Mais dans la pente, on peut monter, là, jamais on touche la roche calcaire du substratum. Et on voit très bien ici cette pente-là.
Bien. Eh bien, le CEU avait beaucoup de choses à nous raconter, et vous aussi. Alors, on vous remercie beaucoup. Et voilà. Et puis... je vous dis donc, et tâchez d'être aussi nombreux la prochaine fois, pour entendre que peut-être... notre place sur la Terre ne sera pas dans l'avenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est un sujet tout aussi intéressant.